Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
bah, mais je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Tu conduis, ça veut tes papiers, ton permis, ton alcoolie et ton péché. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête, un monstre chelou avec trois têtes. Prends mon tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu info du vendredi.
Le 22 décembre 2023, il est 19h03, c'est le Canu Info du vendredi sur la plus rebelle des radios 102.2 en modulation de fréquence et en stéréophonie. Et qu'est-ce qu'on raconte ce soir dans le Canu Info?
Eh bien, est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression.
On t'entend merveilleusement, une très belle voix en plus.
Ok, super. Eh bien, on va tout d'abord, alors c'est très national aujourd'hui, et on va commencer par vous faire un décryptage en long, en large et en travers de la loi immigration.
En effet. Ensuite, on vous parlera de nucléaire et de caca radioactif, comment les excréments de l'industrie du nucléaire se retrouvent sur le chemin de la pierre des fées. Tout ça a l'air très poétique.
Tout à fait. Et puis ensuite, on vous parlera d'un super nouveau fichier, le SISPOPP, système informatisé de suivi de politique pénale prioritaire. Voilà, tout un programme de ce fichier de merdeux.
Et puis on vous parlera un petit peu d'animaux et notamment d'otaries à crinière aujourd'hui.
Voilà, et puis ben, on aura comme d'hab la traditionnelle rubrique agenda. Et puis,
dans laquelle on vous annoncera sans doute une fête catholique. Non, et donc, et ensuite, éventuellement, si vous savez ce que veut dire ACAB, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15.
Et tu le connais par cœur, c'est magnifique.
On paye pour ça.
Tout à fait.
Allez, bonne émission.
C'est parti.
Canu info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Alors, No Border, c'est pas vraiment ce qui est à la mode actuellement, à la fois en Europe, puisqu'il y a eu un nouveau projet de loi européen qui est passé, qui a l'air bien cracra sur la question des frontières. On vous en reparlera sans doute en janvier ou la semaine prochaine dans le Canu Info du vendredi. Mais aujourd'hui, on va revenir sur un truc que vous n'avez pas pu rater, qui est le projet de loi immigration, devenu loi immigration, future loi, en tout cas, elle n'est pas encore promulguée. Et puis, bah, comme on a pu le chanter, par exemple, hier à Lyon, cette loi immigration, c'est dégueulasse, selon un air connu. Oui, mais c'est dégueulasse, comment on s'est dit que ça valait peut-être un peu le coup quand même de revenir sur ce qu'il y a dans cette loi notamment, et un petit peu sur la séquence politique et ce que ça peut poser comme question. Alors je vais essayer de ne pas traiter tout le monde de nazi, mais on va essayer de revenir sur ça un peu plus finement. La philosophie générale du projet de loi sur l'immigration vise en fait à durcir les conditions d'entrée et de séjour des étrangers et étrangères sur le territoire français, et avec ce texte, il va leur être plus difficile à peu près de tout faire, hein, donc de travailler légalement, de se soigner, de se loger, de bénéficier de prestations sociales, d'obtenir une place dans un hébergement d'urgence, d'étudier, etc. Le seul point un petit peu doux, alors on a essayé de nous le mettre en avant, mais je crois que personne n'a trop mordu quand même, c'est le fait que les étrangers qui déposeront plainte contre un marchand de sommeil bénéficieront d'une carte de séjour temporaire. Assez super, faites-vous exploiter par des mauvais logeurs, vous aurez de meilleures conditions de vie. Bref, on va essayer de reprendre point par point tout ce qui va pas dans cette loi, tout ce qui est bien dégueulasse. Ça risque de pas être très très drôle, mais je pense que c'est un petit peu nécessaire de se poser la question de ce qu'il y a vraiment dedans. Alors d'abord, on va parler de durcissement du regroupement familial. En effet, les étrangers et étrangères en situation régulière, en fait, vont devoir attendre au moins 2 ans pour faire une demande de regroupement familial. L'âge du conjoint a lui aussi été changé. Avant, c'était la majorité, désormais, ce sera 21 ans. L'étranger ou l'étrangère devra apporter la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulière et suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille avec un logement adéquat et disposer d'une assurance maladie. Alors tout ça, ça fait beaucoup de conditions. Ça fait aussi beaucoup de conditions qui ne sont pas définies très précisément. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la loi qui inquiètent un peu aussi sur en fait, les latitudes qui peuvent être laissées au préfet, au juge, etc. Pour les étrangers et étrangères qui bénéficient du regroupement familial, c'est-à-dire ceux et celles qui vont quitter leur pays pour rejoindre un ou une conjointe ou un parent en France, il faudra, à l'inverse, prouver une connaissance suffisante de la langue française, c'est-à-dire qu'on attend, c'est de pire en pire, quoi. Le maire, lui, va avoir de plus en plus de pouvoir là-dedans, puisqu'il a investi de nouvelles missions. Alors en fait, c'est un peu un retour en arrière, ça a déjà existé par le passé, mais il pourra en fait s'opposer à l'installation d'un étranger ou d'une étrangère au titre du regroupement familial dans sa commune, donc ça donne quand même un pouvoir hyper fort au maire. Et alors, il y a un truc assez incroyable dans cette loi bien xénophobe, c'est que si le maire ne répond pas dans les 2 mois, en fait, la demande est considérée comme rejetée. Donc, bon, voilà, ça va être... premier point de dégueulasserie, attention, accrochez-vous, il y en a une quinzaine. Ça, c'était pour le durcissement du regroupement familial. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle l'extension du délai de mariage. Bah, vous savez, il y a des personnes qui ont... sont pas françaises, qui se marient en France. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, pour les étrangers mariés à un ou une ressortissante française, ils devront ou elles devront justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, avoir un logement et une couverture maladie. Donc, à nouveau, en fait, on est vraiment sur... En fait, la mise en œuvre pratique de cette immigration choisie dont on nous parle depuis au moins les années Sarkozy, ça fait 15-20 ans qu'on nous parle de ce truc-là. Ben voilà, c'est ça un petit peu la manière dont ça se passe. Et le mariage lui-même devra avoir une certaine durée si on veut que ce mariage ouvre notamment le droit eh bien, à des cartes de résidence ou à des papiers, quoi, en gros. Donc le mariage devra durer au moins 5 ans pour qu'une personne étrangère puisse faire une demande de carte de résidence de 10 ans. Voilà. Et les maires, à nouveau, hein, qu'on va aussi transformer en flics, a priori, il y en a plein qui sont volontaires, mais c'est quand même une évolution dramatique. Si un maire soupçonne un mariage blanc, il devra en informer le procureur de la République et le délai durant lequel ce dernier doit se prononcer a été allongé. Donc les gens seront un peu en danger tout le temps et évidemment, ils ont encore augmenté la peine s'il y a un mariage dit blanc qui est identifié. Bref, mariage blanc et répression du mariage. Ensuite, il y a une question à nouveau dont on évoque assez souvent les questions, puis qui a été un petit peu mise en avant récemment, qui est le durcissement des séjours pour raison de santé, puisque les étrangers et étrangères qui souhaiteraient se faire soigner en France vont devoir justifier en fait de l'absence de prise en charge sanitaire dans leur pays d'origine. On reproduit un peu les mêmes délires que sur l'asile où il faut prouver qu'on est extrêmement en danger dans un pays dans lequel il y a la guerre. Et ça, ce sera apprécié par l'autorité administrative compétente, hein, donc on imagine les ARS, avec des médecins. Et s'il n'existe pas de convention de prise en charge avec le pays d'origine, eh bien, les frais seront à la charge de l'étranger ou de l'étrangère malade. Voilà, voilà, France, terre d'asile, tout ça, ça marche pas très bien. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Des fois, il y a des étrangers et étrangères qui viennent étudier en France. Pourquoi pas ? Bah là, on va leur faire raquer, tout simplement. Les étudiants étrangers devront verser une caution, dont le montant est pour l'instant inconnu. Ça fait partie de tous les flous qui entourent cette règle. Elle sera restituée à leur départ, s'ils se sont bien comportés, et elle peut être supprimée, par exemple, si l'étudiant n'a pas de ressources. Les frais de scolarité, eux, seront également majorés. Ça fait aussi à petit moment que c'est dans les tuyaux. Il y a eu une mobilisation, ça avait un peu reculé, ça revient, il y a une mobilisation qui va peut-être revenir, on l'espère en tout cas. Ça, c'était le point étude. Ensuite, il y a la question du conditionnement de séjour régulier pour les prestations sociales et le droit au logement, et ça, en fait, c'est un recul énorme dans la loi actuelle, puisqu'il faudra attester d'une présence sur le territoire d'au moins 5 ans ou d'avoir travaillé pendant au moins 30 mois pour bénéficier du droit au logement opposable. Alors le droit au logement opposable, déjà ça marche pas, hein. C'est un truc qui dit en gros on va vous donner un logement social si vous n'avez pas les revenus, vous êtes censé avoir un logement, le droit au logement est censé exister en France, déjà c'est pas appliqué vraiment, donc bon, en vrai concrètement ça changera pas énormément de choses, mais par contre le durcissement il est hyper fort, c'est-à-dire qu'en gros c'est la préférence nationale quoi, schématiquement, appliquée au logement. Ces mêmes conditions, elles sont exigées pour la prestation d'accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement, l'allocation de soutien familial, l'allocation de rentrée scolaire et l'allocation journaliste de présence parentale. Donc toutes ces aides en fait au logement, à la naissance, toutes ces prestations sociales, elles sont repoussées, vous devez être depuis plus de 5 ans légalement sur le territoire, on va voir que ça a des effets plus tard, donc c'est assez dégueulasse. Et ça vaut ailleurs, je ne vais pas continuer la liste, mais ça vaut notamment pour toute personne étrangère qui se retrouve en situation de handicap et souhaiterait obtenir l'allocation personnalisée d'autonomie, peut-être l'AAH, l'AAH il ne mentionne pas, en tout cas bah, voilà, c'est un des passages les plus racistes en fait hein, de ce texte. Il y a ensuite le durcissement généralisé du travail pour les étrangers et étrangères. Donc, alors là, on parle d'expérimentation. On connaît le délire. Hein, on commence par expérimenter, puis c'est de pire en pire. Une expérimentation va être menée pour permettre l'obtention d'un titre de séjour temporaire pour les étrangers. Pour cela, il faudra travailler dans un secteur dit en tension, ou dans une, donc c'est un job de merde, quoi, ou dans une zone géographique en tension et être sur le territoire depuis 24 mois. Alors sur ces 2 ans, attends, c'est un peu chiant, hein. Il faudra avoir travaillé au moins 1 an, donc avant c'était moins que ça. L'étranger ou l'étrangère devra aussi s'engager dans un parcours d'intégration, là on voit bien les fantasmes racelards qui arrivent, hein, disant qu'il adhère aux valeurs de la République, dont personne n'a trop compris ce que c'était, à part le colonialisme et 2-3 autres trucs comme ça, quoi. Et cette expérimentation durera 3 ans, donc pendant 3 ans, il faudra se tenir bien bien sage et respecter toutes ces braves valeurs de la République dont on ne sait pas trop ce qu'elles sont. L'étranger ou l'étrangère obtiendra alors une carte de séjour temporaire, bah, au bout de 3 ans, t'as joué, t'as été un bon élève, mais on te donne quand même pas grand-chose. Et cette carte ne pourra pas être renouvelée que plus de 3 fois. Donc on est vraiment sur un truc bien bien de durcissement sur le point de vue des papiers, cette fois-ci. L'autre durcissement, il concerne aussi en fait un peu les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Les étrangers ou étrangères titulaires d'une carte de séjour, résident, séjour temporaire, vie privée familiale, résident de longue durée de lieu, enfin il y a pas mal en fait de statuts potentiels, eh bien ne pourront plus créer de micro-entreprise, ils faudront qu'ils aillent sur d'autres, en fait, d'autres typologies d'entreprises. Quant aux demandeurs ou demandeuses du passeport talent, c'est un truc un peu à la con pour faire venir des cadres et des artistes, les conditions ont été revues, il faudra qu'ils attestent de leur diplôme, d'expérience, de partenariat avec notamment des entreprises françaises, pour pouvoir faire cette demande qui sera ensuite examinée par l'administration, c'est-à-dire la préfecture. Et donc il y a une exception, et c'est notable parce qu'on comprend aussi à travers cette loi sur cette immigration choisie que bah, on va essayer de trier sur le volet et qu'il n'y a pas étranger et étranger, c'est pas toujours la même condition. Et donc l'exception concerne les professions médicales. En gros, on est en galère de médecin, donc l'obtention du titre de séjour ou talent ou compétence devient quasiment en fait de droit pour tous les personnels médicaux. Donc non seulement on maltraite l'hôpital public, non seulement on laisse circuler le Covid partout, mais en plus on va globalement aller piller un certain nombre de pays pauvres plutôt que d'ouvrir le numerus clausus. Les personnes, par ailleurs, qui emploieraient des personnes sans titre de séjour régulier vont avoir des peines de prison et des amendes administratives qui ont été durcies. Donc il y a une répression aussi plus forte des personnes qui emploient. Voilà. Ensuite, on continue, parce que tout ça est que dégueulasse, on est à peu près à la moitié. Il y a le grand retour de la déchéance de nationalité, un grand fantasme de François Hollande, et le retour de la double peine. Alors ça, c'est un truc beaucoup plus vieux, hein, quand même. Mais là-dessus, on a marqué encore des bons points xénophobes. Alors, le champ des cas où un étranger ou une étrangère en situation régulière peut se voir retirer sa carte de séjour a été étendu, en fait, à une grande variété de crimes et de délits. Je ne vais pas en faire la liste, c'est trop long. Le séjour irrégulier redevient une infraction, et ça, c'est important qu'en fait ce soit une infraction d'être sur le territoire français sans avoir de papier, puisque si on fait le lien avec ce qu'on a dit précédemment ou après, c'est-à-dire notamment le fait qu'il faut respecter les valeurs de la République et donc avoir un casier judiciaire vierge pour travailler, bon, en fait on voit bien la saloperie, c'est-à-dire que globalement on est un peu coincé théoriquement, ça donne plein de situations complètement impossibles en fait pour les personnes. Ensuite, y a toujours ce fantasme, et ça c'est un peu quand même un truc qui s'inscrit aussi politiquement dans une séquence qui commence notamment en juin avec les émeutes suite à la mort de Naël, sur la binationalité, donc la déchéance de nationalité qui revient, puisque les personnes binationales encourent une déchéance de nationalité en cas d'homicide sur une personne dépositaire de l'autorité publique, comprendre un policier, un gendarme, un militaire, etc. Et ça c'est très clairement de l'agitation pour faire... plaisir aux flics, quoi. Je m'explique. Les étrangers et étrangères sont aussi expulsés en cas de condamnation à des délits réprimés par une peine d'emprisonnement de 3 ans ou plus. Donc ça, c'est le retour de la double peine, hein, tout à fait. Hein. Et ce sera également le cas pour les violences intrafamiliales. De plus, cette expulsion pourrait être accompagnée d'une interdiction d'entrée sur le territoire français pour 10 ans. Ça risque de produire 2-3 drames. Alors, bon, on n'est toujours pas au bout, puisqu'il y a aussi des restrictions pour les personnes mineures. Dans le cas où un étranger ou une étrangère en situation régulière a une charge de famille, c'est-à-dire des enfants, il ou elle devra assurer à ces derniers, je cite, « une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française ». Donc on revient toujours un peu à ce fantasme. Si l'enfant est né de parents étrangers, même s'il est né sur le sol français, il ne devient plus français de plein droit à sa majorité, c'est la fin du droit du sol. En réalité, c'était difficilement appliqué, mais c'est un gros changement et qui n'est pas uniquement symbolique, quand même. Il devra en manifester, donc l'enfant devra manifester sa volonté, en fait, c'est-à-dire faire une demande en fait, de nationalité une fois la majorité acquise. Quant aux mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance ou ce qu'il en reste, s'ils et elles souhaitent faire une demande de carte de séjour temporaire vie privée familiale à 18 ans, ils devront apporter la preuve qu'ils n'ont plus aucun lien avec la famille restée dans le pays d'origine. Donc ça c'est pareil, c'est bien tragique. C'est-à-dire que tu t'es barré pour X ou Y raison de ton pays, t'as encore des liens avec ta grand-mère ou un oncle au pays, bah, ça pourrait conduire au fait qu'on te refuse le fait d'avoir des papiers. Ce qui ensuite est un délit, et on comprend bien l'enchaînement potentiel. Enfin, il sera également possible de procéder à la prise des empreintes digitales sans le consentement de ces mineurs. Voilà, la seule évolution, c'est qu'ils ne pourront plus être placés en centre de rétention administratif, mais bon, globalement, c'est quand même une catastrophe de plus. Si on continue, il y a encore des dispositions relatives à l'intégration. Pour les étrangers et étrangères en situation régulière qui souhaiteraient s'installer durablement en France, il faudra passer par ce fameux parcours d'intégration républicaine dont je parlais tout à l'heure. C'est pas une nouveauté en fait, c'est juste que le programme a pas mal changé et devra notamment comporter un module d'histoire et de culture. Ce parcours sera sanctionné par un examen, donc bon, pour devenir français maintenant il va falloir avoir des bonnes notes. Avec une note minimale, l'étranger ou l'étrangère a une obligation d'assister assez court, et concernant les cours de français, ils sont déjà gratuits pour les étrangers pris en charge par l'État ou les collectivités territoriales, c'est un moindre mal. Enfin, il y a d'autres trucs qui changent, évidemment, qui est-ce qui va aller réprimer tout ce petit monde ? Ben, la police des étrangers. Alors, qu'est-ce qui va être possible ? Il sera possible de procéder, je l'ai déjà dit pour les mineurs, mais c'est valable pour tout le monde, en fait, pour tous les étrangers, de procéder au recueil des empreintes digitales et à la photographie d'un étranger sans son consentement. Pour les services de police uniquement, mais quand même, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a du fichage sans consentement qui va être possible. Son refus, le refus de la photographie ou du fichage, hein, sera considéré comme un motif de fuite de la personne et entraînera immédiatement un placement en CRA, centre de rétention administrative, ou une assignation à résidence. Donc on voit les espèces de potentiellement, si tout ça est appliqué à la lettre, les espèces d'enchaînement de drames que ça produit. Et ça vaut également pour le cas où un ou une étrangère est suspectée d'avoir volontairement altéré ses empreintes digitales, hein, une pratique que malheureusement les personnes sont un peu contraintes de faire. Bah, tu te mutiles, mais c'est considéré comme un délit. Il pourra être assigné à résidence, enfin la personne pourra être assignée à sa résidence à ses frais, ou bien placée en CRA. L'assignation en résidence ou le placement en CRA pourront quant à eux être renouvelés 2 fois, et les délais là aussi sont prolongés, donc on va enfermer encore plus de personnes qui n'ont commis strictement aucun crime, aucun délit, à part le fait d'avoir mis les pieds sur le territoire. Il sera ou elle sera également possible, pas du tout, je ne fais n'importe quoi, de placer en CRA toute personne étrangère, y compris un demandeur d'asile. Donc ça, c'est quand même aussi un changement. C'est-à-dire, on pourra mettre des demandeurs d'asile en centre de rétention administrative. C'est incroyable. Ce qui constituerait une menace de trouble à l'ordre public. Alors, la menace de trouble à l'ordre public, c'est une catégorie extrêmement vague. Hein, c'est le truc qui sert à interdire tout et n'importe quoi. Et donc, le contrat d'engagement au respect des principes de la République sera un préalable obligatoire pour tout étranger qui demandera un document de séjour. Ça, je l'ai déjà dit. Et globalement, ça n'est pas possible de refuser. Vous pouvez pas dire, non, mais voilà, de la République, je me torche avec, c'est pas possible. Si vous refusez, c'est considéré comme un trouble à l'ordre public. Donc là, on voit bien comment le truc, c'est le serpent qui se mord la queue un peu en permanence. Donc on voit pas comment refuser de signer un truc qui dirait je suis d'accord avec un texte idiot constituera un trouble à l'ordre public. Mais passons. Un ou une étrangère qui sera déboutée de sa demande d'asile de façon définitive ne pourra plus être hébergée dans un centre d'accueil d'urgence. Hein. Donc en fait, ça c'est en gros, on fout dehors toutes les personnes qui sont plus légalement sur le territoire. Et les personnes ne seront pas non plus autorisées à rester plus que le temps de la procédure nécessaire à l'expulsion. Voilà. Donc ça c'est pareil, on se demande comment ça va être appliqué, parce qu'en réalité c'est peu probable, mais ça risque de mettre les gens dans des situations extrêmement dramatiques, notamment sur le plan du logement et le plan économique. Il sera aussi possible de refuser un titre de séjour à toute personne ressort d'un pays qui ne coopère pas avec la France pour l'éloignement des étrangers. Donc en gros, soit votre pays est suffisamment raciste pour avoir mis en place des procédures d'éloignement de ses ressortissants avec la France, soit on pourra vous refuser le titre de séjour, tout simplement. C'est quand même assez fascinant. L'aide publique au développement sera également conditionnée à la coopération avec les pays bénéficiaires sur l'éloignement des étrangers, c'est-à-dire si vous voulez bénéficier de l'aide publique au développement, notamment un certain nombre de pays africains bénéficient de ça, il faudra aider la France dans sa politique xénophobe. Enfin, concernant l'aide au retour, elle ne sera plus versée qu'une seule fois à la personne expulsée, alors qu'avant, vous pouvez se faire aider au retour plusieurs fois et revenir. Alors, c'est toujours pas fini. On arrive quand même au point positif de la loi. Franchement, je sais même pas pourquoi on parle de trucs positifs, mais faisons-le quand même, hein, qui est la procédure pour la lutte contre les marchands de sommeil. Hein. Les étrangers et étrangères qui seraient victimes de marchands de sommeil pourront solliciter l'obtention d'une carte de séjour temporaire s'ils et elles portent plainte contre ces derniers. Donc ça, c'est vraiment, on t'échange le fait de pouquiller des gens qui certes t'exploitent, mais souvent, enfin bref, qui des situations incroyables, contre le fait d'avoir des papiers, donc on sent bien le truc qui va bien se passer, quoi. Et cette carte de séjour sera valable pendant toute la durée de la procédure, donc si jamais le gars il est condamné, ben vous êtes aussi condamné à ce que votre carte de séjour se termine, donc ça n'a aucun sens. Les peines à l'encontre des marchands de sommeil sont aggravées, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais enfin bon, globalement c'est pas grand chose. Enfin, dispositions diverses, le texte impose un débat annuel au Parlement sur l'immigration pour qu'on puisse avoir des discours xénophobes à plein régime, déjà que c'est le cas le reste du temps, avec des quotas migratoires aussi qui doivent être discutés. Le gouvernement devra chaque année remettre un rapport au Parlement sur les services médicaux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et une expérimentation dans 5 à 10 départements pour les refus de titre de séjour devra être mise en place. Enfin, il y a 2-3 trucs qui changent comme ça dans cette loi. Le tarif réduit dans les transports en Île-de-France est conditionné au titre de séjour régulier. On ne peut plus appliquer les choses en fonction de la nationalité. Et là, on voit à nouveau dans les petits détails, hein, dans les dispositions diverses, il y a des trucs rigolos où on voit que tous les étrangers ne sont pas les mêmes. Puisqu'on y apprend notamment que les Britanniques propriétaires d'une résidence secondaire en France obtiennent automatiquement un visa long de séjour en France.
Bah tiens donc.
Bah tiens donc, ouais, les Britanniques qui ont plein de thunes, d'accord. Les autres, un peu moins. Donc voilà. Là, on voit bien le délire quand même. C'était pour revenir dessus, je pense que c'était important de lister toutes ces saloperies, même si ça fait pas trop plaisir. Voilà. Et puis au milieu, il y a aussi la création d'une nouvelle entité qui s'appelle France Asile. Alors ça va avec France Travail, France Santé, France Travail, Famille, Patrie, là, tout ça. Mais on sait pas trop ce que c'est en fait. C'est quoi de mon flou. Donc pour l'instant, on en sera sans doute un peu plus loin. Alors. Le texte maintenant, qu'est-ce qui devient ? Il a été voté par le Parlement et il doit à présent être examiné par le Conseil constitutionnel pour vérifier qu'il est conforme à la Constitution et pas anticonstitutionnel, un terme qui a beaucoup de lettres. Et là, il se joue un truc en fait, parce que le gouvernement fait une espèce de danse un peu bizarre. Mardi soir, Gérald Darmanin a proposé aux sénateurs d'adopter le texte en disant... techniquement, je cite, qu'il contient manifestement et clairement des mesures contraires à la Constitution. Mais on continue, mais la politique, a estimé Gérald Darmanin, ce n'est pas être juriste avant les juristes. Et donc ce sera au Conseil constitutionnel de faire son œuvre. Et de fait, il a été saisi, le Conseil constitutionnel, mercredi par le président de la République. pour qu'il puisse statuer sur la conformité de tout ou partie de la loi. Une conformité que même la première ministre Elisabeth Borne a reconnue absolument fragile. La saisine du Conseil constitutionnel apparaît en fait comme l'ultime recours pour faire censurer les mesures les plus dures, en fait, hein, qui ont été concédées par la majorité, a priori assez facilement, ils ne se sont pas beaucoup battus, aux responsables des partis Les Républicains et du RN. On croit un peu rêver, en fait, parce qu'il y a dans ce texte, et on peut citer Emmanuel Macron qui disait ça mercredi matin en interview, des choses que je n'aime pas, mais qui ne sont pas contre nos valeurs, déclarait Emmanuel Macron. C'est quand même fascinant. Et non, c'était pas en interview, c'est en conseil des ministres. Et il a affirmé le soir que ce texte contient des choses qui peuvent choquer des gens, mais qui, à ses yeux, sont efficaces. Donc on voit bien l'espèce de truc, genre, oui, en fait, je suis pas complètement... Enfin, c'est pas nous, quoi. C'est complètement fascinant, quoi. La même manière qu'ils ont dit, en fait, on n'a pas eu besoin du Rassemblement National, mais on s'en fout, tu votes une loi xénophobe, tu votes une loi xénophobe. À un moment... Et donc, dans la loi sur l'immigration, les mesures que j'ai listées précédemment, celles qui sont le plus fragiles au regard de la Constitution, hein, qui statuent quand même beaucoup sur des questions d'égalité face à la loi, c'est la question des quotas, sur lesquels ils ont été un peu flous, les prestations sociales. Donc j'ai listé toutes ces prestations sociales qui sont liées à une durée de présence sur le territoire. Ça, constitutionnellement, ça pourrait être assez fragile. La question du droit au logement aussi est assez fragile. Et enfin, le droit du sol, qui est quand même un truc assez fondamental, en fait, dans la Constitution française, qui a été mis en cause, pourrait être cassé constitutionnellement. On voit bien ce qui pourrait se passer, c'est que le Conseil constitutionnel censure quelques points et puis laisse passer tout le reste. Hein. Globalement, quand même, tout ceci va être en grande partie mis en application. Et aussi, politiquement, le fait de voter des saloperies et de compter sur le Conseil constitutionnel pour les censurer est évidemment assez perturbant, en fait. Alors c'est aussi perturbant d'un point de vue anarchiste, hein. L'État, pour nous protéger de l'État, moi je comprends pas très bien, ça me fait pas hyper c'est pas hyper clair, surtout quand cette stratégie elle vient du gouvernement, donc le gouvernement qui dit on va recourir en gros à un des trucs, mais ça pourrait aussi avoir d'autres funestes conséquences à l'avenir. Et là je m'inspire notamment de l'analyse de Christophe Audran, c'est un historien qui est pas vraiment un camarade, lui il a pas de problème avec l'État, mais qui se pose quand même des questions intéressantes sur le plan de qu'est-ce que veut dire cette constitutionnalité, et notamment ce que ça peut vouloir dire si on la regarde vu d'autres pays dans lesquels des choses similaires se sont passées. En fait, voter un texte en sachant que les dispositions sont frontalement non constitutionnelles et pas et en ayant un petit doute sur un point, ils le savent, ils le disent très clairement, c'est quelque part une forme de démission, dit-il, sur le plan politique, qui s'appuie en fait par calcul, opportunisme, lâcheté, on pourrait mettre les termes qu'on veut, sur le juge constitutionnel. Et la bataille politique qu'on refuse ou qu'on croit gagner, en fait, on la décale à la justice constitutionnelle, et ça fait de cette justice un enjeu politique, alors que c'est pas ce qu'elle est censée être administrative. C'est un truc qui est juste censé vérifier la conformité à la Constitution. Et en plus, on sait que la justice constitutionnelle, on a déjà parlé au Canu Info plusieurs fois, c'est quand même totalement nul, hein, puisque c'est un certain nombre de juristes s'en plaignent, notamment parce qu'elle est largement composée de vieux politiciens de droite qui maîtrisent mal le droit, puis qui s'ennuient, puis qui n'ont pas trop le temps de traiter les dossiers. Et globalement, elle a validé un certain nombre de choses, on en a parlé notamment au moment du mouvement des retraites, où le Conseil constitutionnel a validé des choses manifestement anticonstitutionnelles. Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire porter de plus en plus, en fait, le poids sur cette institution comme un garde-fou qui est nul par nature, quoi. Alors, le truc, c'est que personne ne veut renforcer ce truc-là en ayant des personnes qui soient vraiment, à la limite, des garde-fous juridiques, puisque, globalement, c'est cool, le copinage. Tu peux nommer ton vieux pote pour lui renvoyer un strapontin un peu lucratif, un peu prestigieux, en échange de la carrière politique qu'il a faite ou du fait qu'il t'ait permis de monter dans le parti, etc. Donc, on voit bien le truc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'extrême droite, maintenant qu'elle va être déboutée par le Conseil constitutionnel en partie, au lieu de l'être par le Parlement, puisqu'il vote avec elle, elle va mener la bataille au Conseil constitutionnel, en fait. Et c'est la grande question qui va se poser. Et en France, probablement, on va très vite voir ce qui s'est passé en partie, notamment aux États-Unis, sous Obama ou sous Trump, c'est-à-dire une politisation du Conseil constitutionnel. Alors chez eux, c'est la Cour suprême, ça s'appelle. Et on a retenu un truc, on en a parlé au Canu Info, c'est l'histoire de l'arrêt Roe versus Wade. C'est le truc qui protégeait l'avortement aux États-Unis. En fait, le législateur américain, en fait, par calcul politique, par lâcheté, etc., a refusé de légiférer sur la question de l'avortement pendant 40 ans à l'échelle fédérale. Et en fait, tout a reposé sur un arrêté de la Cour suprême. C'est-à-dire, on disait, bon, l'arrêté de la Cour suprême, il est favorable à l'avortement, donc globalement, on s'en fout, ça va casser toutes les décisions. Bah, en fait, on a bien vu que ça a fini par changer, puisque l'enjeu faussement juridique est devenu vraiment politique, et progressivement, notamment, Trump a beaucoup travaillé à la nomination de juges favorables politiquement, et on risque d'avoir un truc du même genre. Donc on peut dire aujourd'hui, pas grave, j'ai voté un texte de facho qui a des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la Constitution, mais ça va être censuré. Mais c'est une très très grave erreur de calcul, parce que probablement qu'elle peut changer la composition de ce Conseil constitutionnel, ce qu'on pourrait payer très très cher relativement rapidement, par exemple en 2027. Bref, pour se donner un peu de... pas forcément, mais pour se dire quand même qu'il se passe des choses, parlons quand même deux secondes de la contestation de cette loi, hein, parce que bon, on va pas faire toutes les déclarations débiles de tous les politiciens. Ah, quand même un point, Olivier Véran qui a dit « Les étrangers sont quand même les bienvenus en France ». Ah, c'est incroyable, ils sont obligés de sortir une horreur pareille, quoi. Alors, déjà la contestation, il faut dire une chose quand même, on a eu beaucoup de discours qui disent « Ah, c'est une loi extrêmement grave », et c'est vrai, c'est une marche qui est élevée, mais c'est pas une rupture, en fait, ça fait depuis 35-40 ans qu'il y a des lois chaque année, enfin on vous en parle beaucoup ici, il y a des lois de plus en plus racistes, il y en a plein, on a connu la déchéance de nationalité, on a connu le ministère de l'identité, Darmanin c'est au moins sa cinquième loi sur les questions migratoires, donc on a vraiment un durcissement permanent. Quand on milite ou quand on connaît les personnes migrantes, on sait en fait, c'est des vies qui sont vraiment déjà extrêmement difficiles. Donc en fait, on est plutôt dans une forme de continuité. Et ce qui, voilà. Donc c'est quand même important. Ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ce qui est en train de se passer. Et ça, je pense que c'est important pour avoir des discours. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a eu des premières manifestations quand même, il y a eu des premières mobilisations au moment où tu as ça qui t'arrive à la gueule, et y compris si par exemple moi-même je suis pas la première personne qui va subir cette loi-là, ça fait plutôt du bien de voir qu'il y a une réaction. Et puis en même temps, il y a eu un peu des sorties complètement pétées, notamment de l'opposition. Hein. On peut prendre l'exemple de Ruffin, hein, qui disait, il a supprimé ensuite son tweet. « Cher député macroniste, vous le savez, votre femme de ménage à l'Assemblée est le plus souvent étrangère, pour beaucoup capverdienne. Vous discutez en ce moment même de comment leur gratter des APL demain matin au bureau, qui assumera sous ses yeux, dans les yeux, quand vous la croisez en train de récurer vos toilettes. Donc en fait, espèce de sale bourgeois de merde, c'est pas possible d'écrire un truc pareil, quoi. » C'est-à-dire, et en fait, c'est terrible, parce que ça marque aussi cette espèce de consensus raciste et du consensus de la place de l'étranger, où un type qui est censé incarner la gauche en France comme François Ruffin, il te dit ah mais c'est incroyable, vraiment qu'est-ce qu'on va exploiter d'autre si on fout les migrants dehors, quoi. Enfin c'est effroyable, et ce truc là est quand même assez présent, et on l'a vu notamment dans une proposition de loi qui a été faite par les sociodémocrates, qui était il y a un mois ou deux, on en avait parlé ici même je pense, qui était de dire en fait on va faire un titre de séjour spécialement pour les professions en tension, ce qui est complètement surréaliste. C'était une proposition de Sarkozy, et aujourd'hui on fait passer ça pour humanistes, par des élus verts, LFI et compagnie, quoi. Bref, on a eu ça, on rappelle quand même que aussi on a eu des protestations institutionnelles qui commencent à arriver, notamment les départements de gauche qui ont dit on va pas appliquer ces questions, notamment sur les prestations sociales, les présidences d'universités qui ont pris la parole en disant c'est pas possible, les trucs de caution, etc. Difficile de mesurer quels sont les effets de ces choses là, c'est sans doute positif, hein, qu'il y ait des prises de position politique quand même contre cette loi, mais attention aussi à se méfier de comment on argumente, et notamment là aujourd'hui on a eu un truc par les orgueils étudiantes, hein, notamment l'UNEF, qui sont un peu pris les pieds dans le tapis et qui en gros disait c'est vraiment pas bien le truc de la caution et des droits de scolarité pour les étudiants étrangers, parce que ça va nuire à la recherche et à l'excellence de l'Académie française, quoi. Tu fais mais non mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà, il va falloir se méfier. On peut espérer qu'il y a des choses qui démarrent. Il y a eu des blocages d'université, il y a eu des blocages à Lyon, notamment à l'ENS, à l'IEP, je crois à Lyon 2. On peut espérer qu'il y ait un mouvement sur la question, ça fera un peu de bien quand même, parce que les lois, outre les lois sur la migration, on va dire la dimension, le consensus raciste dans ce pays, il est quand même absolument écrasant, et ce serait quand même vraiment chouette qu'il y ait un petit sursaut sur la question. Voilà, j'ai été long, je suis désolé.
Non, c'était très très bien ce récap.
On n'a pas du tout passé de la musique, on n'a pas du tout le temps.
Du coup, oui, on va embrayer tout de suite vers votre rubrique hebdomadaire nucléaire.
Canu info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc aujourd'hui côté nucléaire, je vais vous parler de certains déchets qui sont un peu oubliés. Alors, juste pour vous, un petit retour en arrière, en fait, il y a quelques temps, on vous avait parlé que mi-octobre 2023, Orano avait annoncé avoir signé un accord avec la Mongolie pour exploiter un gisement d'uranium. Et donc, cette annonce avait été avant tout commerciale et surtout destinée à rassurer quelques investisseurs et à calmer les esprits qui s'interrogeraient sur le devenir de la filière nucléaire. Alors, d'autant plus commerciale cette annonce que la teneur moyenne en uranium du gisement de Mongolie est de 0,02%. Alors, c'est très faible et c'est même tellement faible qu'en France, ces gisements présentant cette teneur étaient appelés stériles et jugés trop peu rentables. Et oui, parce qu'en France, eh ben, il y avait des mines d'uranium, il y en avait à peu près 200, exploitées entre 1945 et 2001, principalement dans le massif central et le massif armoricain. Et donc, ce minerai à faible teneur, qu'on souhaite maintenant exploiter en Mongolie, avec, soi-disant passant, une technique d'extraction absolument dévastatrice pour l'environnement, était en France considéré comme de vulgaires gravats. Et c'était tellement considéré comme des gravats que ces stériles miniers ont été utilisés comme matériaux pour construire des routes, des chemins, des fondations de bâtiments, etc., etc. Parmi les nombreux sites touchés, il y a le site de l'ancienne mine d'uranium des Bois Noirs à Saint-Priest-la-Prugne, dans la Loire, où le 30 novembre dernier, le représentant d'Orano a maintenu sa position, c'est-à-dire un refus catégorique d'enlever les déchets radioactifs issus de l'ancienne mine d'uranium qui ont été utilisés il y a plusieurs décennies pour remblayer le chemin qui conduit au site touristique de la Pierre des Fées. Technique bien rodée de l'industrie nucléaire, hein, à savoir mettre ses merdes sous le tapis. Et donc là, on va vous passer un petit son produit par le collectif des Bois Noirs et la Criade avec le soutien des habitants-habitantes de par là-bas. Donc un son qui revient sur cette notion de stérile minier uranifère et sur la lutte plus spécifique qui concerne le radieux chemin des pierres de fées.
Donc le chemin radioactif, c'est le chemin qui vient à la Pierre des Fées, qui continue ensuite dans les bois. C'est le chemin par lequel forcément les touristes ou les familles vont venir passer pour venir ici.
Dans l'Hexagone, de l'uranium a été extrait de plus de 200 mines dans 27 départements. La dernière a fermé en 2001. Ces activités ont produit de très grandes quantités de déchets radioactifs, improprement appelés stériles miniers. Il s'agit d'environ 200 millions de tonnes de roches, plus ou moins radioactives, qui ont été accumulées sous forme de verses à proximité des mines, mais qui ont aussi été largement utilisées pour emblayer des routes, des chemins, des plateformes, et parfois ces matériaux radioactifs ont même été utilisés sur des terrains de sport, des cours d'école ou sous des bâtiments. La CRIRAD a pu mettre en évidence la dispersion de ces matériaux radioactifs autour de toutes les mines d'uranium qu'elle a contrôlées en Loire-Atlantique, en Haute-Vienne, Corrèze, Cantal ou encore dans la Loire ou le département de l'Hérault. Le minerai d'uranium était initialement à une profondeur de quelques mètres, quelques centaines de mètres. Les roches remontées à la surface ont été triées en fonction de leur niveau de radiation. S'il était très élevé, c'est que la quantité d'uranium était suffisante pour que ces roches soient envoyées à l'usine d'extraction d'uranium. Mais en dessous d'un certain niveau de radiation, ces roches étaient considérées comme un déchet minier sans valeur commerciale. Le problème, c'est que leur teneur en uranium est très au-dessus des niveaux normaux, d'autant que des morceaux de minerai y sont mélangés, car en fait le tri était relativement grossier. Les associations, CRIRAD et collectifs des Bois Noirs ont dénoncé cette situation en 2009, dans le documentaire « Uranium, le scandale de la France contaminée » qui a été diffusé dans l'émission « Pièce à conviction ». À l'époque, sous la pression de l'opinion, les autorités ont obtenu de l'entreprise, qui s'appelait Areva, qui est devenue Orano, qu'elle effectue un inventaire des lieux de réutilisation de ces stériles radioactifs. Une cartographie a été effectuée par hélicoptère. En fait, certaines des radiations qui sont émises par l'uranium et ses descendants, sont tellement puissantes qu'elles peuvent être détectées à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Suite à cet inventaire, plus de 1000 lieux de réutilisation de ces stériles radioactifs ont été identifiés en France, avec des doses parfois nettement supérieures aux limites sanitaires pour le public. Plusieurs dizaines de ces sites ont été traités par l'entreprise Orano, mais elle refuse de les prendre en compte en totalité, considérant que les risques sanitaires ne justifient pas le coût des travaux. Le problème, c'est que la méthode d'évaluation des doses, et donc des risques, sous-estime fortement la réalité. Nous allons prendre l'exemple du secteur des bois noirs, à la limite des départements de la Loire et de l'Allier. Une mine d'uranium y a été exploitée par le commissariat à l'énergie atomique, puis la COGEMA, de 1955 à 1980. 85 lieux de réutilisation de stériles radioactifs ont été identifiés aux alentours de cette mine, parfois à plus de 10 km des lieux d'extraction de l'uranium. Sous la pression des associations, Areva Orano a décontaminé quelques sites, mais l'entreprise refuse toujours de traiter, par exemple, le chemin forestier qui conduit au site touristique de la Pierre des Fées. La Pierre des Fées est recommandée dans les guides de randonnée à pied, pour les circuits VTT et la découverte de lieux mystérieux. Mais le chemin qui y conduit a été remblayé sur plus d'un kilomètre avec des roches radioactives de la mine située à une dizaine de kilomètres. Et donc, il faut d'abord expliquer que tous les sols contiennent des substances radioactives naturelles, des familles de l'uranium, du thorium et du potassium 40. Et ces substances émettent en se désintégrant divers types de radiations invisibles, des particules alpha, bêta et des rayonnements gamma. Alors certains des rayonnements gamma qui sont produits par la désintégration de l'uranium contenu dans les roches traversent le sol, l'air et irradient les personnes qui évoluent au-dessus du sol. Nous allons utiliser un scintillomètre, le DG5, qui permet d'enregistrer justement le taux de radiation gamma qui est exprimé avec cet appareil en coups par seconde. Ça veut dire que si l'on mesure 10 coups par seconde, à chaque seconde, 10 rayons gamma invisibles traversent l'appareil et nous traversent aussi. Dans une situation naturelle classique, au contact du sol, ce taux est en général un peu supérieur à celui mesuré à 1 mètre au-dessus du sol. Mais les valeurs sont assez proches. Dans de nombreuses régions de France, ces valeurs sont en dessous de 100 coups par seconde. En revanche, sur des sols de type granitique, on mesure souvent autour de 200 coups par seconde et plus parce que le granit contient naturellement un peu plus d'uranium. C'est le cas par exemple sur ce rocher naturel qui affleure en sous-bois à quelques dizaines de mètres du chemin de la Pierre des Fées. À 1 mètre au-dessus du sol, on mesure un peu moins de 200 coups par seconde. On peut utiliser aussi ce détecteur en mode sonore. Dans ce cas, le son est d'autant plus strident que le taux de radiation est élevé. Et lorsqu'on quitte cet environnement naturel en sous-bois et qu'on se rapproche progressivement du chemin de la Pierre des Fées, la radioactivité augmente fortement du fait de la présence des stériles radioactifs qui ont été utilisés justement pour remblayer le chemin, mais aussi la plateforme où se trouve le poteau qui indique la présence du sentier touristique. Alors bien sûr, les personnes qui se promènent sur ce chemin ou qui pique-niquent sur cette plateforme sont exposées à leur insu à un taux de radiation qui est tout à fait anormal, alors que ces gens se croient ici en pleine nature, loin de toute pollution. Alors comment se fait-il qu'Orano refuse d'enlever les remblais radioactifs originaires de la mine d'uranium ? Eh bien, c'est parce que la dose de radiation calculée par l'industriel résulte d'une méthodologie qui sous-estime les risques réels. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, l'industriel évalue le niveau de radiation en le moyennant sur l'ensemble de la zone. Mais sur le chemin de la Pierre des Fées, les niveaux de radiation sont très variables sur les 1,6 km de ce chemin. Cette carte, qui a été réalisée par Areva en 2016, montre par exemple que 9 portions du chemin ont un niveau de radiation nettement anormal. Ce sont les valeurs qui sont indiquées en rouge. Alors que d'autres portions de ce chemin ont des valeurs proches du niveau naturel. Deuxième point, l'industriel ne tient pas compte du fait que, en présence de ces stériles uranifère radioactif, le niveau de radiation augmente très nettement lorsqu'on s'approche du sol. Le taux de radiation à 1 mètre au-dessus de ces stériles est de l'ordre, dans cet exemple, de 1600 coups par seconde. C'est déjà une valeur 8 fois supérieure au niveau naturel. Mais quand on s'approche de la source de cette radioactivité, donc au contact de ces roches, le taux de radiation augmente fortement. Il atteint, par exemple, 20 000 coups par seconde, soit une valeur presque 100 fois supérieure au niveau naturel. À d'autres endroits du chemin, le taux de radiation dépasse d'ailleurs 40 000 coups par seconde. Et bien sûr, le protocole qui consiste à prendre en compte uniquement les radiations mesurées à 1 mètre au-dessus du sol sous-estime fortement les doses subies par les enfants, parce qu'étant de taille inférieure à celle d'un adulte, et bien les enfants sont plus proches du sol, plus proches de la source de radiation et donc plus exposés. Troisième point à prendre en considération, le fait que les risques liés à la manipulation de ces roches radioactives sont importants. Si un enfant ramène ces cailloux radioactifs à la maison, eh bien, il pourra être exposé de façon régulière et pendant un temps très long. L'utilisation d'un autre appareil, ce contaminomètre alpha-bêta-gamma, nous permet de voir que la radioactivité est très variable au contact d'un même caillou. Sur la face la plus riche en uranium, par exemple, le taux de radiation est 100 fois supérieur à ce qu'il est de l'autre côté. Ça nous montre que la position du caillou dans le chemin influe sur la radioactivité ambiante et qu'un changement de position, par exemple lié au passage d'un véhicule qui va retourner le caillou et faire que la face la plus active se retrouve en surface, eh bien, ce mouvement va entraîner une augmentation de la radioactivité ambiante. Les doses de radiation subies par le public du fait de ces stériles radioactifs sont dans le domaine des faibles doses, certes, mais elles ne sont pas pour autant inoffensives. Toute dose de radiation augmente les risques de pathologies à long terme, pathologies cancéreuses et autres. Et d'autant plus que la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. L'autorité de sûreté nucléaire écrivait d'ailleurs que lorsque des actions simples permet de réduire les impacts sur l'environnement et l'homme, elles doivent être mises en œuvre. Et dans l'exemple de ce chemin, utiliser une pelle mécanique pour enlever ces remblais, ces roches radioactives et les ramener dans la mine d'uranium d'où elles viennent, ça paraît relativement simple. Et cet exemple n'est pas isolé. C'est pourquoi pour la CRIRAD et pour le collectif des Bois Noirs, Orano doit poursuivre le travail de traitement des sites radioactifs en France, d'autant que dans certains cas, ces déchets sont présents dans les villages et parfois sous des bâtiments. Et puis, outre l'impact sanitaire, l'irradiation, il faut aussi prendre en compte le préjudice d'anxiété pour les propriétaires de ces lieux, la baisse de la valeur des terrains concernés, les atteintes à l'image des communes qui sont touchées par ces problèmes de stériles radioactifs, impact sur le tourisme et perte d'attractivité des territoires. C'est pourquoi il est important que l'industriel assainisse les lieux qui contiennent des stériles radioactifs.
Well, I don't know, but I've been told uranium ore's worth more than gold. So my cad, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep.
Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down. Well, I had a talk with
the... Et tout de suite, sans transition, un autre truc fasciste.
Chaque individu dans cette ville a été muni d'un code. C'est une brillante idée du docteur Cocteau. Greffer sous la peau une micropuce bio-organique. Dans toute la ville, des détecteurs localisent n'importe qui à tout instant.
Je n'arrive pas à imaginer comment vous faisiez dans la police avant qu'on ne mette au point ce système.
On bossait, mon vieux. Ce truc fasciste me donne envie de vomir.
Et oui, encore une histoire de fichiers en France, en effet, on va vous parler du CIPSPOP. Alors le nom pourrait être rigolo, mais ça l'est pas du tout. En effet, on va revenir un peu en arrière. Début mai, Mediapart révélait que certains tribunaux judiciaires avaient constitué des fichiers sauvages de personnes placées en garde à vue après avoir été interpellées, notamment lors des grandes manifestations contre la réforme des retraites au printemps. Et l'un de ces fichiers a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Lille, qui en a ordonné la destruction. C'était le 19 mai. Mais dans le même temps, là c'est rigolo quand même, le ministère de la Justice travaillait à la mise en place d'un nouvel outil plus perfectionné qui commence, lui, à être mis en œuvre et qui a de quoi inquiéter encore plus parce qu'il va être, en gros, c'est légaliser les pratiques illégales, comme d'habitude, et il va être mis en place partout. Il s'agit du système informatisé de suivi de politique pénale prioritaire, donc le SISPOP, un traitement automatisé de données à caractère personnel dont plusieurs organisations demandent d'ores et déjà l'interdiction et on les soutient ici au Canu Info. Parmi ces organisations, on trouve le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, Solidaire, la Quadrature du Net ou encore SOS Homophobie qui viennent le 11 décembre de déposer une requête au Conseil d'État contre le décret qui autorise ce fichier. Selon le ministère de la Justice, le SISPOP a pour finalité, je cite, « le suivi et le pilotage de situations par personne et par nature de politiques pénales prioritaires, l'évaluation de ces politiques pénales ainsi que la mutualisation et la fluidification des échanges d'informations ». Donc bon bref, déjà lancé dans quelques tribunaux, ce fichier informatique doit être progressivement mis en œuvre dans chaque tribunal judiciaire et au sein de chaque cour d'appel. Il est censé en fait permettre aux magistrats et magistrates de différents pôles de partager les données et d'éviter ce qu'on appelle le travail en silo, tout ceci pour plus d'efficacité. Dans les fiches et les circulaires adressés aux juridictions, l'accent est mis sur l'échange rapide d'informations entre juges des enfants, juges aux affaires familiales et magistrats du pôle pénal. Mais alors là, on va retomber sur un truc assez classique. On dit « Ah, c'est que pour quelques petites spécificités, quelques petits délits, où voyez-vous le mal, etc. » Puis ensuite, on généralise. Alors qu'il était présenté au départ comme un outil destiné à améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, ce système de traitement est en fait étendu à toute une série de sujets très différents. Je cite « lutte contre les infractions commises dans le cadre ou en marge des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité de l'ordre public », ça s'appelle une manifestation en français, « lutte contre des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou aux personnes chargées d'une mission de service public », ça s'appelle une manifestation, une occupation par exemple, « lutte contre les infractions commises sur un périmètre local déterminé et suivi dans le cadre des instances partenariales auxquelles participent les magistrats », ça veut rien dire du tout, « lutte contre les trafics de stupéfiants », »,« lutte contre les atteintes à l'environnement pénalement réprimé » et « lutte contre la radicalisation violente », alors ça c'est encore beaucoup de catégories différentes, donc on voit bien que ça s'étend à peu près tout et n'importe quoi. Là où les associations et les syndicats craignent que les personnes interpellées en marge de manifestations dites à risque, d'où ce qu'on vient de lister précédemment, puissent être englobées dans ces cadres très larges, voire fourre-tout, d'autant plus que dans certains cas, outre l'état civil complet des personnes, on peut trouver dans ce fichier des données, qu'elles y soient mises en cause les personnes, mises en examen, témoins assistés, en fait, quel que soit le statut que vous avez dans le fichier, vous êtes fiché pareil. Et en plus des informations professionnelles, des informations financières et patrimoniales, le fichier pourrait aussi comporter des informations très personnelles en fonction de la nature des infractions. Selon les cas, des données relatives aux opinions politiques, des données relatives à l'appartenance syndicale, des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, des données relatives aux convictions religieuses, des données sur la santé des personnes, des données révélant l'origine raciale ou ethnique et des données génétiques et biométriques pourraient se retrouver dans ce fichier selon les annexes du décret du 10 octobre. Donc en gros, on vous fiche vraiment sur toute votre vie et ça inquiète pas mal quand même le fait qu'on puisse afficher notamment votre orientation sexuelle, votre opinion politique là-dedans. Évidemment, la CNIL a fait « bon, nous on trouve pas ça très grave ». On vous donnera des nouvelles de la réponse du Conseil d'État qu'on espère qui mettra en échec quand même ce sale fichier. Et aujourd'hui, Gros Minet est une otarie à crinière. Et oui, car le saviez-vous, vous ne le saviez peut-être pas, c'est la période à laquelle naissent les bébés des otaries à crinière ou otaries de Patagonie ou Lyon Marin. Ça a toujours 24 000 noms. Otaria flavescens, de son nom latin. Je suis bilingue. Et il faut quand même savoir que les petits du lion marin sont dénommés des chiots, comme d'autres, mais que ces chiots n'aboient pas, puisque quand ils naissent en faisant environ 12 kilos, eh bien ils bêlent comme des agneaux. C'était la belle histoire de Noël.
C'est absolument incroyable.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda! Et pour commencer l'agenda, vous savez que peut-être le 24-25 décembre, il y a des fêtes catholiques absolument affreuses, mais on ne voulait pas vous parler de ça. Demain à 15h à Bellecour, il y a une manifestation en soutien aux Palestiniens, Palestiniennes et contre la guerre à Gaza. Vous pouvez vous y rendre, place Bellecour, 15h.
Et puis,
le 24 décembre, vous pourrez écouter sur les ondes de Radio Canu une émission qui s'appelle Zonzonde, qui sont des dédicaces et messages de soutien aux prisonniers et prisonnières. Et on vous passe tout de suite la petite annonce.
Zonzonde.
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 L'émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches s'élargit pour le 24 décembre.
It's a new day. Fuck what a bitch gotta say.
On vous propose un méga zonzonde de fin d'année ce dimanche 24 décembre de 20h à minuit.
Une émission en direct pour envoyer des dédicaces, des musiques, des pensées.
On sera diffusé à Valence, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble, Marseille ou écoutable sur le site internet de Radio Méga.
4 heures d'antenne pour les personnes enfermées et leurs proches.
Pour s'apporter de la force.
Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur.
Pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien.
Pour que des paroles de prisonniers prisonnières puissent retentir dehors.
Pour écouter du bon son, rire et se sentir bien ensemble.
Alors si tu veux passer un message à un proche, faire une dédicace musicale en direct,
tu peux appeler au 09 72 40 20 85. Ou écris-nous à Zonzonde, Radio Méga, 35 rue Prompso.
Prompso, P-R-O-M-P-S-A-U-L-T.
26 000 Valence. Pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le
07 44 17 84 13.
On pourra nous écouter depuis le centre pénitentiaire de Valence sur Radio Méga 99.2. Depuis celui de la Talaudière sur Radio Audio 89.5.
Dans une partie de la maison d'arrêt de Corba, depuis l'EPM de Mézieux, le Vinatier et le CRA Lyon-Saint-Exupéry sur Radio Canu 102.2.
Depuis le centre de semi-liberté de Saint-Bruno, la maison d'arrêt de Vars et l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève sur Radio Campus 90.8.
À l'EPM de la Valentine, une partie de la centrale d'Arles, la maison d'arrêt de Luynes, le centre de détention de Tarascon, le CRA du Canet, sur Radio Galère 88.4.
Alors, rendez-vous sur les ondes le 24 décembre de 20h à minuit. Et d'ici là, faites passer le mot.
De dédicace en dédicace.
De dédicace en dédicace, on casse l'isolement.
Retrouvez toutes les informations sur le blog de la Petite Cuillère, Radio Canu.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à cap.
Canu Info du vendredi.
Eh ben, aujourd'hui, le ACAB, ça veut dire, vous vous doutez, tous et toutes, ça veut dire All Christmas Are Bastard.
Ça parle anglais ici.
Yeah. Et du coup, pour terminer cette magnifique émission...
On prend un peu de retard, on s'offre 2 ou 3 minutes car c'est Noël.
Voilà, c'est Noël et c'est un joli cadeau que nous offre Noise Pollution.
Il nous oblige. Noise Pollution, une émission de Noël, on des bonnets rouges, c'est incroyable.
Et donc voilà, nous en tout cas, on se quitte là et on se quitte en musique avec une superbe chanson de Noël. Et puis on vous dit certainement à la semaine prochaine.
Ciao.
Voilà, ciao.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is
la chute. Allez, on efface, allez, on remplace le bleu, blanc, rouge par du rouge et du vert. Alors viens t'asseoir sur les genoux, l'intermittent névrosé de l'intermarché d'à côté. Et puis y'a les chants, et puis y'a les chœurs, et puis y'a les jolis marchés de Noël. Y'a des marrons grillés, du vin chaud qui t'écœure, mais ça va parce qu'on est avec toi.
fait, parce que si on se fie à Wikipédia, le 25 décembre aurait été choisi qu'au début du 6e siècle par le moine Denis le Petit.
Mais on s'en tape un peu de tout ça, tu sais.
Ben pourquoi?
Parce que tout ce que je veux pour Noël, c'est
la chute, chute du grand capital.
Ah oui.
La chute, chute du grand capital.
Pas con, ça.
La chute, chute du grand capital. La chute du grand capital. La chute, chute du grand capital.
Fallait y penser, hein.
La chute, chute du grand capital.
C'est toi qui as eu l'idée.
Chute, chute du grand capital. La chute du grand capital.
Et maman qui disait que
ouais.
C'était nouvel an, c'était propager le Covid et tuer les vieux.
Elle insiste à mort pour que j'aille voir mamie alors que je crache des glavios de la taille du PK The Rock. Parce qu'il est sûr en tout cas, quand janvier elle sera plus là, donc viens pour Noël prendre mamie dans tes bras. Même si elle n'a pas encore reçu sa troisième dose, de toute façon faudra bien qu'elle meure de quelque chose.
Mais sérieux, parlez pas de ma grand-mère comme ça, ouais.
Pardon.
Allez. Et dans quelques jours y aura des tocards pour dire j'espère que l'an prochain tout ira mieux.
Mais c'est la fin du monde.
C'est que le début des emmerdes.
Mais d'abord on va manger tous les petits chocolats du calendrier de l'Avent. Et puis on va décorer le sapin aussi, sans oublier la crèche de Noël. Faudra bien mettre le petit Jésus, pas n'importe où, ça c'est
par
très
contre,
important.
Je l'ai déjà dit, hein, mais on s'en fout de tout ça, tu sais.
Pourquoi déjà?
Parce que tout ce que je veux pour Noël c'est
la chute, chute du grand gâteau.
Là-bas. Quoi, y'a quoi là-bas?
Une petite chorale de Noël.
Mais non, tu déconnes.
Si, là.
Où?
Juste entre le quart de CRS et le SDF qui a pas l'air bien.
Ah ouais?
Wow.
J'adore les chorales de Noël.
Attends, va chanter.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
Elle a la note, hein.
I don't care
on dirait la voix d'un ange.
Oh,
le vibrato.
C'est quoi le La chute, chute du grand capital. La chute, chute du grand capital. La chute, chute du grand capital.
La chute du grand capital. La chute.
Après, il y a les rois mages, donc il y a Melchior, il y a Balthazar,
Attends deux secondes. Ouais, allô? Ouais, allô, pardon.